VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, le monde aujourd'hui, édition du jeudi 3 août 2017, en direct de Washington, Jean-Roger Billon et Anne Alberson, pour commencer les titres.
Au Cameroun, le clergé conteste de nouveau la version officielle de la mort par noyade de l'évêque Jean-Marie Benoît Bala.
Au Congo-Brazzaville, le PCT, parti au pouvoir, a obtenu la majorité absolue à la future Assemblée nationale, selon les résultats officiels publiés hier soir.
En Guinée, manifestation de l'opposition hier à Conakry pour exiger du président Alpha Condé le respect des accords politiques.
Au Nigeria, des éléments présumés de Boko Haram ont tué hier au moins 6 personnes dans l'état de l'Adamawa.
Ici aux États-Unis, le président Donald Trump a appuyé hier une réforme de l'immigration légale basée sur les compétences.
Et ne manque pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal.
Au Cameroun, le clergé a profité des obsèques de Mgr Jean-Marie Benoît Bala, hier à Yaoundé, pour contester de nouveau la version officielle d'une mort par noyade. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
Qui tue les prêtres de ce pays? S'est demandé Mgr Joseph Akonga, évêque et ami du défunt. Il a ajouté que le regretté Jean-Marie Benoît Bala était un excellent nageur et ne pouvait donc pas se noyer. Il a tenu ses propos devant de nombreuses personnalités, dont le ministre de la Justice, Laurent Esso. Le 2 juin, le corps de Mgr Bala, 58 ans, a été repêché dans le fleuve Sanaga, 2 jours après sa disparition. Le message « Je suis dans l'eau » a été retrouvé dans son véhicule. Par la suite, le procureur de la République a indiqué la noyade comme étant la cause du décès. L'Église camerounaise a contesté cette version, affirmant que Mgr Bala a été assassiné et que son corps porte des marques de violence. Des fidèles et des curieux étaient présents hier à la cathédrale de Yaoundé, où la dépouille de Mgr Bala a été exposée. Il sera inhumé aujourd'hui à Bafia, où il officiait comme évêque.
Le Parti congolais du travail, PCT au pouvoir, a obtenu la majorité absolue avec 90 des 151 sièges de la future Assemblée nationale. Les résultats officiels du second tour, qui a eu lieu le 30 juillet, ont été communiqués dans la nuit à la télévision publique par le ministre de l'Intérieur Raymond Zéphirin Mboulou. L'Union panafricaine pour la démocratie sociale, première formation d'opposition, et l'Union des démocrates et humanistes de Guy Brice Parfait Kolela, arrivés au deuxième rang lors de l'élection présidentielle de 2016 ont obtenu chacune 8 députés. Le ministre de l'Intérieur n'a fourni aucun chiffre sur le taux de participation.
Des dizaines de milliers de partisans de l'opposition guinéenne ont manifesté mercredi à Conakry pour exiger du président Alpha Condé le respect d'accords politiques prévoyant notamment la tenue d'élections locales sans cesse repoussées. Les manifestants portaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Alpha Condé, 7 ans de promesses, ça suffit ». Nous voulons les communales maintenant. Alpha Condé ne touche pas à ma constitution. Des responsables de l'opposition, comme l'ex-premier ministre Sélouda Alain Diallo et Pape Koli Kourouma, étaient en tête d'un cortège parti de Kosa, une banlieue de la capitale, et qui s'est conclu par un rassemblement de dizaines de milliers de personnes devant le stade du 28 septembre, un itinéraire d'une dizaine de kilomètres.
Le président du Niger, Mahamadou Issoufou, a exhorté mercredi soir son armée à tout mettre en œuvre pour libérer les 39 personnes, 33 femmes et 6 garçons enlevés début juillet par le groupe djihadiste nigérian Boko Haram dans un village du sud-est. Monsieur Issoufou a assuré que l'organisation Boko Haram a été fortement affaiblie par les actions de la force régionale créée en 2015 par les pays riverains du lac Tchad, Niger, Nigeria, Tchad et Cameroun. La semaine passée, des organisations féminines nigériennes ont appelé Niamey à s'engager davantage en faveur de la libération des 39 otages.
Au Nigeria, pendant ce temps, au moins 6 personnes ont été tuées hier dans un raid attribué à Boko Haram dans l'état de l'Adamawa. Des détails avec Morgane Guiriec.
Des combattants présumés de Boko Haram ont envahi le village de Mildou, près de la ville de Madagali, dans le nord de l'Adamawa. Selon Ahmad Sadjo, ministre local de la communication, ces hommes armés ont tué 6 personnes et blessé 3 autres. Les insurgés ont brûlé plusieurs maisons et magasins, forçant les villageois à fuir. Les forces de sécurité déployées dans le secteur ont riposté par des tirs, tuant l'un des assaillants. La ville de Madagali, proche de la forêt de Sambisa, est une cible répétée des djihadistes. En décembre dernier, au moins 45 personnes ont été tuées dans des attentats suicides coordonnés dans un marché très fréquenté de la ville. Pourtant, l'armée nigériane avait assuré avoir délogé les islamistes de leur fief, mais le groupe multiplie les attaques et embuscades dans le nord-est du pays.
Au Soudan du Sud, au moins 4 civils ont été tués par des inconnus dans une embuscade tendue mercredi sur la principale route reliant la capitale Juba à la frontière ougandaise. 4 civils sont morts sur le champ et 5 autres ont été blessés, a déclaré le porte-parole de l'armée, le général Lol Roué Kouang, qui a dit s'attendre à ce que le bilan s'alourdisse. L'attaque est la dernière en date sur cet axe fréquenté mais dangereux, emprunté notamment par des Soudanais du Sud qui fuient la guerre civile qui déchirent depuis plus de 3 ans leur pays pour se réfugier en Ouganda ou par d'autres qui regagnent Juba.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici à Washington, le président Donald Trump a appuyé hier dans une intervention à la Maison-Blanche une réforme de l'immigration légale aux États-Unis. Cette proposition, initiée par 2 sénateurs républicains, vise à privilégier les compétences. Précision d'Eric Manirakiza.
Ce projet de loi baptisé « Réformer l'immigration américaine pour un emploi solide » constitue une refonte du système d'immigration légale aux États-Unis. Les sénateurs républicains Tom Cotton et David Perdue veulent plafonner à 50 000 par an le nombre de réfugiés à offrir l'autorisation de résider aux États-Unis, la Green Card. L'attribution de ce document très convoité sera déterminée par un système de notation. D'après Donald Trump, les immigrés parlant anglais, capables de subvenir financièrement à leurs besoins et à ceux de leur famille, et aussi dotés des compétences susceptibles de contribuer pour l'économie américaine, seront avantageux. Cette réforme est calquée au modèle canadien et australien, ont indiqué les promoteurs. En moyenne, 1 million d'immigrés sont autorisés à s'installer légalement aux États-Unis chaque année et la plupart d'entre eux sont des travailleurs peu ou pas qualifiés. Seulement, 1 immigré sur 15 vient aux États-Unis sur la base de ses qualifications.
Le président Trump a par ailleurs promulgué mercredi les nouvelles sanctions économiques contre la Russie adoptées par le Congrès en réaction à l'ingérence russe dans la présidentielle américaine de 2016. Mais M. Trump a pris immédiatement ses distances avec ce texte qu'il a jugé très imparfait et susceptible de saper ses efforts pour améliorer des relations au plus bas niveau avec Moscou. La Russie, qui n'avait pas attendu la décision du président américain pour riposter, a dénoncé une mesure dangereuse qui risque de miner la stabilité dans le monde, sans exclure d'autres mesures de rétorsion.
Israël a annoncé hier avoir achevé la construction d'un nouveau mur de 42 kilomètres de séparation avec la Cisjordanie occupée. Des détails avec John Linden.
Le ministère israélien de la Défense a indiqué hier avoir installé les derniers blocs en béton d'un mur de 42 kilomètres au nord-ouest de Hébron. Le ministère ne précise pas combien de kilomètres de barbelés, fossés, clôtures électroniques et murs de béton ont déjà été construits. En 2002, en pleine intifada, Israël a commencé la construction d'un mur de 712 kilomètres. Selon l'ONU, il restait encore quelques 210 kilomètres à construire. Traversant en grande partie la Cisjordanie, cette barrière de séparation est devenue le symbole décrié de l'occupation. Les Palestiniens l'ont baptisé « mur de l'apartheid ». En juillet 2004, la Cour internationale de justice a exigé son démantèlement, de même que l'Assemblée générale de l'ONU. Mais le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou continue de faire la sourde oreille.
Le président vénézuélien Nicolas Maduro a annoncé le report de 24 heures de la séance inaugurale de l'Assemblée constituante rejetée par ses adversaires, qui se tiendra donc finalement vendredi, malgré les dénonciations de fraude. La procureure générale du Venezuela, Luisa Ortega, de son côté, indiquait mercredi soir qu'elle avait ouvert une enquête sur les suspicions de fraude entourant l'élection de cette Assemblée chargée de rédiger une nouvelle constitution. L'opposition entend, elle, continuer à siéger au Parlement. Elle se préparait par ailleurs à manifester ce jeudi contre l'installation de ce super pouvoir qui va piloter le Venezuela pour une durée indéterminée.
Au Brésil, le président conservateur Michel Temer a une nouvelle fois sauvé son mandat mercredi, malgré sa mise en accusation pour corruption, en obtenant le nombre de voix nécessaires au Parlement pour empêcher l'ouverture d'un éventuel procès. L'opposition n'a pas été en mesure de rassembler la majorité des deux tiers, soit 342 voix, qui auraient donné le feu vert à la Cour suprême pour inculper le chef de l'État et l'écarter du pouvoir pour 6 mois. Le vote des députés implique que l'affaire sera classée. Michel Temer est accusé de s'être prévalu de sa condition de chef d'État pour recevoir environ 100 000 dollars de pots de vin de la part du géant de la viande JBS, impliqué dans le gigantesque scandale de corruption qui touche le Brésil. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
À présent, la Minute Éco avec Blanche Sanou.
En Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, le gouvernement a annoncé la nomination de Yves Brahima Koné, tout nouveau patron pour la filière cacao. Selon le porte-parole Bruno Koné, cette nomination vise à insuffler une nouvelle dynamique dans ce secteur qui représente 40% de l'économie ivoirienne. D'après les chiffres de la Banque mondiale, le cacao représente 15% du produit intérieur brut, plus de 50% des recettes d'exportation et les deux tiers des emplois directs et indirects de la Côte d'Ivoire. En RDC, la filière aurifère est en plein essor avec de nombreux projets d'exploration et des grands sites exploités. En 2016, la production a atteint 22,6 tonnes avec 4 grandes sociétés d'exploitation industrielle concentrées dans l'est du pays. Selon BMI Recherche, spécialiste de la filière, des prévisions d'un rebond de la production congolaise s'en ont jusqu'en 2021 grâce à une remontée des cours et aussi des projets d'investissement par des sociétés minières. La BAD va investir 24 milliards de dollars dans son programme Feed Africa ou Nourrir l'Afrique pour promouvoir le secteur agricole et répondre aux besoins alimentaires du continent dans 10 ans. Akinwumi Adesina, le président de la BAD, a indiqué que les futurs millionnaires et milliardaires d'Afrique viendront du secteur agricole. Le programme Feed Africa est la deuxième parmi les 5 grandes priorités de la BAD.
Retrouvons maintenant Nicolas Pineau pour la page de sport essentiellement consacrée à du football. Neymar à Paris, le rêve devient réalité pour le Paris Saint-Germain.
Et oui, le joueur qui doit arriver ce jeudi dans la capitale française, il est arrivé hier soir au Portugal, à Porto, où il pourrait passer sa visite médicale avant de s'envoler pour Paris. Hier, Neymar était venu faire ses adieux à ses coéquipiers Blaugrana de Barcelone. Le transfert du siècle se dessine donc. Le Paris Saint-Germain est sur le point de régler les 222 millions d'euros de la clause libératoire du contrat du Brésilien avec le Barça, une somme astronomique qui explose le record actuel des 105 millions d'euros hors bonus dépensés l'été dernier pour le transfert de Paul Pogba de la Juventus Turin à Manchester United.
Les responsables du championnat espagnol n'entendent pas se laisser faire.
Le président de la Ligue espagnole, Javier Tebas, menace en effet de bloquer le transfert en refusant de recevoir l'argent de cette clause de cession. Tebas accuse le club français de dopage financier en recevant des injections économiques de pays qui offrent des joueurs à leurs supporters en les retirant à d'autres.
La Ligue des champions en Europe.
Le CSKA Moscou a tranquillement géré son avantage du match aller contre l'AEK Athènes pour atteindre les barrages de la Ligue des champions, victoire 1-0. Le Baté Borisov, en revanche, bascule en barrage de la C3, éliminé par le Slavia Prague malgré une victoire 2-1 en raison de la défaite subie 1-0 à l'aller en République tchèque.
Le président Ahmed à Ouagadougou.
Après son élection à la tête de la Confédération africaine de football en mars dernier, le président Ahmad a entamé une tournée auprès des fédérations africaines. Le nouveau patron de la CAF séjournera au Burkina à compter d'aujourd'hui jusqu'au 6 août. Yacouba Ouédraogo nous en dit plus.
Ahmad va rencontrer à Ouagadougou le comité exécutif de la Fédération burkinabé de football. Il sera question des récentes réformes de la CAF avec le passage de 16 à 24 équipes dès la CAN 2019. Autre sujet, l'appel à candidature prévu désormais pour les recrutements au sein de l'instance africaine de football. Le président de la FBF, Sita Sangaré, voit en cette visite une reconnaissance des mérites du football burkinabé. Le président de la CAF va aussi assister aux finales hommes et dames de la Coupe du Faso qui auront respectivement lieu les 4 et 5 août prochains. Ahmad sera également reçu par le chef de l'État, Rochma Christian Kabore, ainsi que l'empereur des Mossé, ancien gardien de but et amoureux du ballon rond.
Être footballeuse n'est pas chère payée.
Et oui, puisque la moitié des footballeuses ne sont pas payées par leur club, selon les premiers chiffres d'une étude du syndicat mondial des footballeurs. À titre de comparaison, l'ensemble des primes versées lors de l'Euro 2016 masculin à 24 équipes atteignait 300 millions d'euros, tandis que pour l'Euro 2017 féminin à 16 équipes, ce montant ne devrait atteindre que 8 millions d'euros, selon les chiffres de la FIFA.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Jean-Roger Billon, pour nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Les Rwandais se rendront aux urnes demain, vendredi, pour élire leur prochain président. C'est mercredi que s'est terminée la campagne électorale avec un grand rassemblement du parti au pouvoir à 30 km de Kigali, la capitale. À cette occasion, Paul Kagame, le président sortant et grand favori de cette élection, s'est attaqué à la communauté internationale. Reportage de notre envoyé spécial au Rwanda, Charlie Kasereka.
Trois candidatures ont été retenues pour cette élection, mais seules les couleurs du parti politique FPR du président sortant Paul Kagame sont très visibles sur toute l'étendue du pays. Les deux candidats qui affronteront Paul Kagame pour ces élections sont Franck Habineza, transfuge du parti au pouvoir FPR, et il est le président du parti démocratique vert PDV. L'autre est Philippe Paimana, 46 ans, journaliste et quasi inconnu au Rwanda, qu'il a quitté en 1994 pour la RDC, du génocide ici au Rwanda. Ce des challengers à Paul Kagame, faute des moyens selon eux, n'ont pas eu à faire une bonne campagne ici au pays des mille collines. La majorité de la population ne connaît même pas les noms de ces deux candidats qui vont s'affronter à Paul Kagame, l'homme fort de ce pays de 12 millions d'habitants. Par peur ou conviction, voteront-ils pour Paul Kagame? Certains restent convaincus qu'il est l'homme de la situation ici au pays. C'est le cas de cette habitante de Kigali, ancienne réfugiée en RDC et qui est de retour depuis maintenant un moment.
Kagame.
Je suis commerçante. Mon président m'a montré l'utilité des banques. Je vais voter pour Kagame parce qu'il nous a donné les mutuelles de santé qui nous aident beaucoup, nous les Rwandais. Et il a mis la parité entre hommes et femmes dans notre pays.
Pour cette dernière journée de la campagne électorale, devant une foule immense de plus de 50 000 personnes, le président Paul Kagame s'est adressé plus à la communauté internationale qui le qualifie de dictateur.
Ils disent que ce sont eux qui nous apprennent la démocratie, mais pour ceux qui le savent, tout récemment, il y a eu des élections quelque part et on a raconté qu'il y a eu piratage informatique et que par conséquent, ils ont eu un dirigeant qu'ils ne voulaient pas. Et d'autres racontent que Kigali, la capitale du Rwanda et les villes urbaines, sont propres, mais que cette propreté n'est pas une démocratie, mais plutôt une dictature.
Paul Kagame, pour la troisième fois comme candidat président, en 2010, il avait remporté les élections avec 93% des voix, chose qui pourrait se reproduire ce vendredi 4 août, après une campagne électorale de 15 jours. Charlie Kasereka depuis Kigali au Rwanda pour VOA Afrique.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Les inquiétudes et interrogations que suscitent les rendez-vous électoraux en Afrique. Pourquoi un bon nombre d'Africains n'ont pas ou ont très peu confiance dans les processus électoraux, comme l'indique l'Institut Afrobaromètre? Y a-t-il des différences entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest? Et que faire pour mettre un terme aux irrégularités et fraudes électorales? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
Au Mali, les banques et assurances ont cessé de travailler mercredi et leurs employés ont participé à une assemblée générale extraordinaire de leur syndicat qui va déposer un préavis de grève lundi prochain. De Bamako, les précisions de Kassim Traoré.
C'est pour dénoncer les licenciements jugés abusifs du secrétaire général du comité syndical Issiaka Traoré du NCA Assurance et NCA Vie Assurance que les banquiers et agents des assurances ont cessé de travailler à partir de 10h.
Je suis M. Komara Toussaint, je suis le secrétaire administratif du comité syndical à NCA. Depuis avril que la loi a été promulguée, c'est finalement en février 2017 que suite à un mail vigoureux que nous avons envoyé, il y a eu avoir une partie, disons, de nos ETS en fin février 2017. Et c'est ce mail qui condamne notre camarade aujourd'hui. Nous avons demandé dans le mail à notre DGA d'avoir un minimum de respect pour le personnel. C'est cette phrase-là qui a été qualifiée d'insubordination.
Lors de cette assemblée générale extraordinaire, les travailleurs des banques et assurances du Mali ont réaffirmé leur soutien à leurs camarades du NCA Mali.
On a constaté des abus à NCA. On est là pour soutenir nos camarades de NCA. Je suis de la banque de la BMS. Les pourparlers sont en cours et on verra ce qui va se passer. Mais on est là quand même pour le soutien, pour soutenir notre camarade qui a été abusivement licencié. On est contre ce tabou, on est là pour dénoncer ça.
Les syndicalistes trouvent qu'il y a une violation flagrante des libertés syndicales. C'est pourquoi ils exigent la réintégration de leur camarade Issiaka Traoré.
La direction nous a demandé ouvertement si tout le comité syndical peut accepter un départ négocié. À ma personne, on m'a proposé pas mal de choses pour que j'accepte une démission, un départ négocier. Je dis non, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question d'honneur, c'est une question de principe, c'est une question de dignité. Nous sommes là pour défendre une cause noble, la lettre. Mais jusqu'aujourd'hui, je suis en tout cas là sans rien. Ni mes droits, ni rien d'autre n'a été fait.
Au terme de l'Assemblée générale extraordinaire, le SINABEF, syndicat national des banques et établissements financiers du Mali, a pris certaines décisions. Amadou Nba, secrétaire administratif du SINABEF.
Le lundi, nous déposons un préavis de grève, demandant le départ sans condition. DG de NCA et de la DGA de NCA de la République du Mali. Parce que c'est une insulte même au Mali d'avoir des gens qui viennent chez nous et qui ne respectent pas nos textes. Toutes les conventions auxquelles le Mali est partie prenante. Nous allons demander la réintégration immédiate, incessamment, du camarade secrétaire général qui a été licencié. Et nous allons demander le départ sans condition du directeur régional du travail, de Ag Mohamed, qui est la cause même de cette trouble.
Le mot d'ordre de grève qui sera décrété concerne l'ensemble du secteur des banques et établissements financiers. Rappelons que la réduction de l'IST a été négociée et obtenue par l'UNTM en 2014 et son application a été rendue effective depuis avril 2016 pour l'ensemble des travailleurs du Mali. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez branchés 24/24 sur VOA Afrique à Bamako au Mali sur 102.0 FM.
Un bateau de l'ONG allemande Jugendrettet, non signataire du code de conduite élaboré par l'Italie pour les sauvetages de migrants, a été bloqué hier à Lampedusa pour des contrôles par les gardes-côtes italiens. Médecins sans frontières n'est pas signataire non plus de ce code de conduite. Au micro d'Iki Abadou, les explications de Corinne Thor, elle est la chef de mission France pour MSF.
Le code de conduite a été mis en place à la demande de l'Union européenne vis-à-vis des ONG qui interviennent en zone méditerranée pour effectuer des sauvetages en mer, expliquant que certaines ONG ne respectaient pas le droit maritime. Par leur présence, était aussi un facteur d'appel auprès des migrants. C'est-à-dire que le fait que des ONG soient présentes en mer Méditerranée faisait que plus de migrants essayaient de passer la mer Méditerranée, sachant que de toute façon, ces bateaux seraient là pour les sauver.
Cela vous paraît-il plausible ?
Non, ça me paraît pas du tout plausible, tout simplement parce que les bateaux qui effectuent ces sauvetages en mer, en particulier les ONG, interviennent parce que l'Union européenne n'a pas mis assez de dispositifs en mer pour essayer de porter secours à ces migrants. Et d'autre part, les flux migratoires ne cessent pas. Depuis les accords qui ont été menés entre l'Union européenne et la Turquie en mars 2016, pour éviter un afflux de migrants sur la Grèce qui était assez débordé, eh bien le parcours migratoire a changé. Donc aujourd'hui, il passe à 94% via la Libye, via la mer Méditerranée pour se rendre en Italie.
Vous n'avez pas signé le code de conduite ? Pour quelle raison ?
Oui, ce code a vraiment deux problèmes. Il veut imposer aux bateaux qui effectuent des sauvetages en mer à rentrer dans les ports le plus vite possible en prenant le risque de laisser des personnes qui se noient encore en Méditerranée. Aujourd'hui, en fait, les pratiques, c'est que si un bateau qui n'a pas la possibilité de sauver 1000 personnes, par exemple, et qu'il y a un bateau à côté, on transfère des naufragés sur le bateau pour continuer à faire des sauvetages. Obliger les bateaux à rentrer en Italie, par exemple, sur les côtes italiennes, va être au détriment de disponibilité de bateaux qui seraient toujours en mer pour continuer à sauver des vies. Et le deuxième point, je souhaite qu'il y ait des policiers armés sur les bateaux, ce qui n'est absolument pas dans la charte de Médecins Sans Frontières, puisque partout dans le monde, nous refusons les armes et nous ne souhaitons pas avoir de gardes armés, même si nous collaborons avec la police, puisque nous transférons de toute façon, dès que nous rentrons en Italie, nous déposons les naufragés auprès des bureaux italiens. Vous imaginez bien que si il y a des personnes armées sur un bateau, les naufragés qui sont déjà dans un état de souffrance extrême vont être encore plus apeurés et on risque de les mettre encore plus dans un état psychologique dégradant.
Corinne Thor, chef de mission France pour MSF.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Le président Donald Trump a défendu hier une refonte du système d'immigration légal aux États-Unis sur la base des compétences. Il estime que cette réforme protégerait les familles américaines en difficulté. Les sénateurs républicains Tom Cotton et David Perdue, à l'origine de ce projet, veulent limiter à 50 000 par an le nombre de réfugiés obtenant l'autorisation de résider aux États-Unis. Pour une réaction, Eric Manirakiza a joint à New York un défenseur des droits des immigrants aux États-Unis, Bakary Tandja.
Comme vous le savez, il y a des personnes qui viennent ici en tant qu'émigrés sur la base de leurs qualifications professionnelles. Donc ce n'est pas un phénomène nouveau, mais le problème, c'est le fait de faire la refonte sur la base d'un certain nombre d'éléments qui nous amènent à conclure que c'est une réforme tout à fait, je ne dis même pas sélective, mais discriminatoire. Si par exemple, on doit baser la sélection sur la capacité de parler l'anglais ou les moyens de pouvoir subvenir à ses besoins financièrement et avoir une expertise dont le pays a besoin, ceci ramène à exclure automatiquement beaucoup de gens.
L'autre objectif de cette loi, c'est pour avoir des immigrés qui peuvent contribuer pour l'économie du pays.
Tout le monde contribue, qu'on soit ingénieur, docteur, conducteur de taxi. L'économie, elle est multidimensionnelle. Tous les immigrés qui sont ici, ils travaillent, ils contribuent. Il faut marcher l'économie, en tout cas, du pays. La réalité est qu'il y a une idée cachée derrière cette réforme.
Avec la loi actuelle, quand on a déjà son statut d'asile, après une année, on a droit à la carte verte. C'est une disposition qui risque de disparaître.
Tel que le contenu de cette proposition l'indique, ça vise tout simplement à réduire systématiquement le nombre des immigrés qui viennent ici. Les ressortissants de certains pays ou de certains continents sont systématiquement visés par ça.
Et comment réformer le système migratoire aux États-Unis?
Tout le monde est d'accord que le système ne fonctionne pas. Tout le monde le dit au niveau du gouvernement, au niveau du Congrès, au niveau de la société civile, au niveau des défenseurs des droits de l'homme. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de point de discorde. Compte tenu de la masse des immigrants présents ici et la tradition de l'immigration des États-Unis, bon, c'est très important d'ouvrir un débat, avoir un débat sain pour tenir compte de tous les aspects. C'est un problème qui est extrêmement complexe. Deux individus appartenant à un même parti ne peuvent pas se réunir et discuter et proposer quelque chose qui va affecter des millions et des millions de personnes. Ce n'est pas un débat sain. Le débat doit être ouvert. Tous les partis et la société civile, les experts en matière d'immigration doivent participer au débat pour arriver à quelque chose de viable qui respecte certains principes moraux et certaines valeurs humaines.
Bakary Tandja, défenseur des droits des immigrants aux États-Unis.
Hello, hello. I'm your English host. Je suis votre présentatrice pour l'anglais, Michelle Joseph, ici au micro. Voulez-vous mieux parler l'anglais? C'est fait. Retrouvez-moi tous les soirs à partir de 21h, temps universel, sur VOA Afrique et sur notre site internet à www.voaafrique.com. Cliquez sur Apprenez l'anglais pour retrouver les leçons de tous les jours. Et les week-ends sur Ondes Courtes, le samedi et le dimanche à 20h TU. Pour mieux parler l'anglais, to speak better English, ne ratez pas English USA sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, ce sera tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci à Anne Alberson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Jean-Roger Billon à Washington. Bonne journée à tous à l'écoute de VOA Afrique.